Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec autour de la table aujourd'hui Rémi Barré, le journaliste Thierry Moreau, le professeur d'histoire géo et militant CGT Benjamin Amar et le journaliste Marianne Perico-Légas. On vous attend également nombreux pour réagir à nos débats aujourd'hui, notamment celui-ci, les faillites de sociétés qui augmentent fortement en France. Êtes-vous inquiet pour nos entreprises? Dites-nous ce que vous en pensez au 3216 et sur l'appli RMC. Il y aura bien sûr à 13h30 le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On se demandera si les cheminots sont des privilégiés. Vous savez qu'il y a eu une réforme des retraites qui n'est pas tout à fait la même pour les cheminots que pour le reste de la population. On se demandera également si notre patrimoine populaire est en danger et si on va devenir une société d'ignares. Il y a un adulte sur 10 qui a des difficultés pour lire et écrire. À 14h, une taxe de 5 euros pour les visiteurs de Venise. Est-ce qu'il faut faire payer l'entrée des villes touristiques pour limiter leur fréquentation? RMC Conso, 14h30, on parlera de publicité ciblée, comment faire pour s'en débarrasser. Et puis on terminera avec Vincent Cerroussi, notre humoriste. Ce sera à 14h50.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va continuer Estelle Midi avec l'inquiétude du jour. Et c'est une inquiétude pour nos entreprises. Les faillites et mises en redressement judiciaire ont explosé. Dernière en date, celle de Duralex, qui pourrait licencier 230 personnes. Un exemple parmi d'autres, de nombreux secteurs sont aujourd'hui en difficulté en France.
Ouais, c'est ce que dit la dernière étude réalisée par la société Alliance Trade. En France, les défaillances d'entreprises ont terminé l'année 2023 à un niveau très élevé, un rythme qui s'est encore accéléré. Sur le dernier trimestre 2023, plus 37% de défaillances d'entreprises pour s'établir à 56 700 cas au total. L'an passé, c'est 10% de plus qu'en 2019, la période de référence avant la crise Covid. Parmi les secteurs les plus touchés, le logement, tout d'abord, qui représente une faillite sur 4 en 2023. Les dépôts de bilan ont été multipliés par plus de 2 l'an passé pour les maçons, pour les électriciens et pour les agences immobilières. Autre secteur en souffrance, le commerce de vêtements, on le sait, l'ameublement aussi, mais aussi l'hôtellerie-restauration. Et les perspectives ne sont guère encourageantes. Cette année, la France devrait dépasser le seuil symbolique des 60 000 faillites d'entreprises au cours donc de l'année 2024. En cause, la lenteur de la reprise économique, des contraintes prolongées en matière de financement, notamment le remboursement des prêts et des aides qui avaient été consentis par l'État lors du Covid, auquel il faut ajouter toujours une inflation, même si elle a ralenti, elle est toujours là, et la baisse de la consommation.
Et les prix de l'électricité aussi qui ont flambé. Alors, record de faillites en France, est-ce qu'il faut être inquiet pour nos entreprises, Perico-Légas?
Mais c'est la conséquence de 50 années d'un néolibéralisme sauvage. On a jeté en pâture une partie de la production française industrielle et de biens de consommation à une concurrence totalement déloyale avec des importations qui étaient sauvages. Alors j'entends les bonnes âmes, la bouche en cœur, qui vous disent « Oui, mais si on ne fait pas ça, on a des contreparties, donc on va au suicide ». Sous prétexte qu'il faut continuer à importer des produits pas chers qui nous ruinent, qui tuent des emplois, qui sont des produits en plus en général dégueulasses, qui proviennent de pays où ils sont fabriqués dans des conditions inhumaines, avec des lois sociales qui sont atroces, et donc on fait notre fric sur le dos d'un prolétariat étranger.
Oui. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose dans le bâtiment, par exemple.
Ah oui, d'accord, mais indirectement les matériaux. Aujourd'hui, quand vous construisez une maison, quand vous allez faire une salle de bain ou une pièce, une cuisine, il y a presque plus de matériel français. Tout vient de l'étranger. On a tout sous-traité. On a confié à l'étranger la fabrication, la production et l'installation de notre pays. Et on s'est dit, voilà, on est en déficit. Le dernier qui restait, c'était les panneaux photovoltaïques. Important, les panneaux photovoltaïques.
Ah, c'est fini.
C'est l'avenir de l'énergie. Elle était étonnante, ça y est, elle a été liquidée. Et là, on a Duralex qui fait des verres quand même de cuisine qui est à Orléans. Et bien là aussi, on préfère acheter du chinois parce que la grande distribution...
Pourtant, c'est pas cher, hein, Duralex. Hein.
Et c'est pour ça.
On a tous eu des verres de cantine Duralex.
Ben, on a trouvé encore moins cher.
Vous voyez le petit numéro.
Et on dit, mais c'est pas grave. Grande distribution qui fait la loi sur le marché, qui les 5 centrales d'achat contrôlent 90% du marché, ont libre cours, ils ont porte ouverte pour importer des produits de l'étranger à bas prix qui ruinent nos industries, qui ruinent notre production. Alors vous avez toujours des gens qui vont dire, évidemment, dans la Macronie et puis la social-démocratie et les partis droites, mais non, pas du tout, c'était schématique, c'est pas vrai. Les résultats sont là. Et comme l'a dit le PDG de Stellantis, M. Tavares, qui n'est pas un excité, on importe de Chine Aujourd'hui, ce sont des moteurs électriques.
Bah, il produit en Chine, lui.
Il a dit, ça se paiera. Il est obligé.
Ça se paiera. Il produit lui-même en Chine.
Il est obligé pour être compétitif. Il est obligé.
Alors s'il est obligé,
il a dit, ça se paiera dans les urnes. Et effectivement, messieurs, bravo, ça se paiera dans les urnes et vous le paierez cher.
Benjamin Hamard, est-ce qu'aujourd'hui il faut faire l'effort d'acheter français pour sauver nos entreprises?
Non, mais bien. Alors ça, les relocalisations, le fait de bien évidemment encore une fois
curieux, hein, on relocalise.
Bah oui, ça fait des années pour c'est le fait que certains syndicats, dont le mien, insistent sur la logique de réindustrialisation. Les exemples, ça, il y a des tas d'histoires de trucs complètement aberrants. Il y a quelques années, une usine Renault dans le Val-de-Marne, spécialisée dans l'économie circulaire. Et donc qui avait reçu un prix sous le mandat de François Hollande, elle a été fermée. Donc il y a des discours sur la réindustrialisation et dans les faits, bien évidemment, on voit que les perspectives sont de plus en plus négatives. Là, à court terme, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'inflation a eu un effet délétère. Mais quand vous savez qu'il y a 10 milliards d'économies prévues sur les dépenses publiques, ça concerne aussi l'investissement public. Et il y aura forcément sur un certain nombre de débouchés d'entreprises des conséquences très importantes. De la même manière, quand le gouvernement s'attaque régulièrement avec des mesures antisociales, ça attaque bien sûr le pouvoir d'achat des Français. Or, la consommation des ménages, c'est 60% du produit intérieur brut. Donc bien évidemment, on voit qu'il y a en fait un cercle vicieux entre des difficultés des entreprises et des difficultés sociales, parce que à travers justement le bilan de 2023, je crois que c'est 240 000 emplois qui sont menacés. Donc là, on est dans une impasse politique. Et la relance par la consommation est quelque chose qui est tabou pour les libéraux, et ça fait partie, ça fait pleinement partie du problème.
Les gens peuvent plus consommer, ils n'ont pas d'argent.
Bien évidemment, et ça fait partie du ciel gris qui s'amoncelle.
Oui, mais aussi, attends, excuse-moi, on n'arrête pas de nous dire, c'est bien, il faut acheter sur Vinted, il faut de la deuxième main, etc. Mais quand tu achètes un t-shirt sur Vinted, c'est-à-dire que tu ne l'achètes pas dans un magasin. Donc ton petit magasin de quartier, après, il ne faut pas aller pleurer.
Sur l'histoire de Vinted, on oublie, il y a ceux qui disent c'est bien, c'est écolo, et il y a ceux qui n'ont pas le choix, en fait. Et qui font, c'est tous comme de la même manière pour la sobriété énergétique. Il y en a qui le font par conviction et il y en a plein qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait. Et donc, la réalité, c'est que entre les difficultés sociales et les difficultés économiques, bien souvent, ça se tient par le coude. Et le gouvernement, à travers cette politique qui, finalement, à chaque fois, attaque le pouvoir d'achat des Français, il a une responsabilité pleine et entière dans ces difficultés qui s'annoncent.
Thierry Moreau, on va écouter l'antithèse.
Thierry Moreau, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour nos entreprises? On dresse un tableau trop sombre de la situation?
Il faut s'inquiéter. Simplement, quand j'écoute Péricot qui dit que c'est 40 ans de néolibéralisme qui nous amène là, je suis désolé.
Et social-démocratie.
L'industrie textile de Boussac, on ne pouvait pas la garder, elle était plus rentable. L'industrie sidérurgique, on ne pouvait pas la garder, elle était plus rentable. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on veut réindustrialiser, alors c'est le grand mot de tout le monde, et on veut faire fabriquer du Doliprane en France, il va coûter plus cher. Donc de toute façon, ça va pas être très pratique et très facile pour le consommateur et pour les entreprises.
Plus cher que quoi?
Plus cher que de le faire produire à l'étranger. On ferme les frontières,
comme
on taxe, vit tout seul, et on y arrive.
Comme le Japon et les États-Unis qui sont des grands puissants.
Je pense qu'il faut être un petit peu plus subtil que ça et un peu moins dogmatique.
Tu fais comme les libéraux.
Et expliquer que ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été soutenues artificiellement au moment du Covid, pas se masquer, et qui aujourd'hui se cassent la gueule. Elles auraient dû se casser la gueule il y a bien longtemps. On continue à avoir les effets de ça. On continue aussi à payer parce qu'il y a eu des aides qui étaient à fond perdu, et puis il y a eu des aides, c'était les PGE. Tu l'as très justement rappelé, Rémi. Et aujourd'hui, ce PGE, il faut le rembourser.
Donc c'était pas bien.
Et donc c'est une charge supplémentaire. Je ne dis pas ça. Je donne une explication fait qu'il y ait plus d'entreprises aujourd'hui qui se cassent la figure. D'accord. La dernière chose, c'est la fiscalité. Encore une fois, et là, je pense que je vais avoir un avocat avec moi, en l'occurrence Benjamin, c'est que la fiscalité des énormes entreprises qui permettent aujourd'hui, fiscalité globale d'une entreprise, on est à moins de 15% sur une énorme entreprise. On est beaucoup plus sur les petites entreprises et les TPE. Là, on a un vrai problème. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à taxer les grosses entreprises que les petites, et les petites qui tirent la langue sont surtaxées, on n'y arrivera pas. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est le néolibéralisme d'il y a 40 ans. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement que de faire partir la sidérurgie là où c'était moins cher. de faire partir Boussac et l'industrie des vêtements ailleurs parce que c'était moins cher, sauf à s'enfermer et à rester tout seul dans son coin et à essayer de survivre.
Et rappelons quand même que les aides publiques de ces dernières années post-Covid,
elles sont sur les grosses.
Exactement. Elles ont été siphonnées par les grosses. Moi, je rappelle, c'est Carrefour, 82% de chômage partiel pour Carrefour. Et en réalité, derrière, on a juste, et dans le même temps, on voit qu'il y a les entreprises du CAC qui font des bénéfices et des dividendes monstrueux, historiques. Plus 8000 points, c'est un record historique. Et que derrière, le pouvoir politique, il est neurasthénique. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça, madame la marquise, circuler, il n'y a rien à voir.
Le crédit impôt recherche, il aide les grosses entreprises et pas les petites.
On a beaucoup d'auditeurs, des petits patrons, notamment, qui nous appellent au 3216. On a Fabien qui nous appelle de Saint-Léger-les-Vignes et qui est gérant d'une entreprise dans le bâtiment. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous.
Et on en a parlé, Fabien, le bâtiment qui est certainement en ce moment le secteur qui se porte le plus mal. Est-ce que vous aussi, votre entreprise est en difficulté, Fabien ?
Oui, comme beaucoup, mais après, tout a été dit en deux points. Déjà, vous avez le Covid en lui-même qui a impacté tout le système économique et social. Mm-hmm. Et la dernière chose qu'a dit votre intervenant, c'est toujours pareil, on est taxé, surtaxé et retaxé. Faut savoir que, comme j'entendais monsieur Thierry Moreau, aujourd'hui, ça me peine de l'entendre dire des choses comme ça, parce qu'à l'époque du Covid, on va pas revenir sur ses propos, qui nous impactaient au quotidien. Il faut savoir que moi, le Covid, on m'a fermé ma société, j'ai perdu 1,8 million euros de chiffre d'affaires. Oui, le temps de la relancer, on a perdu encore 2 mois d'activité. J'avais une trésorerie qui se portait excellemment bien avant ce Covid. On n'a pas été aidé du tout. La seule aide qu'on a eue, et je vais le dire à monsieur Moreau, c'est pas une aide, hein, c'est un crédit. Qu'on nous a
fait. C'est un PGE.
Bien sûr, c'est un PGE.
Après, on va parler de
ça. Ben oui, mais le PGE, c'est bien. Mais quand vous rajoutez des charges et des charges et des charges et d'activité, parce que les gens, tout à l'heure, vous le disiez, le pouvoir d'achat. Mais quand vous impactez le budget mensuel des gens, que ce soit l'EDF, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de problèmes aujourd'hui qu'on ne sait même plus par où commencer. Oui. Mais les gens, aujourd'hui, leur priorité, c'est quoi ?
C'est de manger.
Se nourrir et vivre, entre guillemets. Et les plaisirs, entre guillemets, d'une terrasse ou d'autres choses qu'on pouvait faire avant, bah aujourd'hui, ça passe au second lieu. Vous avez le pouvoir d'achat des retraités à l'époque, mais aujourd'hui, bah, il est impacté aussi. Donc, vous avez tout ce système aujourd'hui qui est caduque. Mais aujourd'hui, ce que les gens ne voient pas au quotidien, nous, on le ressent, c'est une colère, la colère des gens. On ne comprend pas, pourtant il y a des systèmes assez simples sur les PME et TPE. Au lieu de taxer les charges patronales, on ne va pas répéter, il suffit juste de baisser, et non, cet impact-là, on va le réoctroyer à nos salariés.
Mmh. Et aujourd'hui, ça relancera la consommation, etc. Non mais j'entends, mais... Et Fabien, là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir, ou est-ce que vous dites, bon, je vais rembourser... Ah oui, d'accord.
Non, mais bien sûr, et encore, je fais partie d'une société qui fonctionne correctement. Mais le pire, non plus ça, c'est tout ce qu'on voit pas. Mais que vous allez avoir dans cette année et dans les 2-3 ans qui vont arriver, mais c'est une explosion. C'est, en fait, ça résume le particulier d'aujourd'hui. Les petites boîtes, subissent ce qu'ils ont, les particuliers. Et vous avez le résultat de 20 ans, 30 ans, 40 ans de bêtises, et que ces gens-là, là-haut, n'ont pas de compte à rendre. Moi, j'ai des comptes à rendre à mon banquier, j'ai des comptes à rendre à tout le monde. Et ces gens-là, ils prennent des décisions, mais ils n'ont aucun compte à rendre. Alors, ça suffit au bout d'un moment. Notre société, si elle est mal gérée, vous la pliez, c'est terminé. Hein. Et moi, on va venir me chercher ma maison. Hein. Et j'aurai pas de chômage, j'aurai rien du tout.
Donc, parce que vous êtes indépendant, bien sûr.
On veut bien bosser, mais il faut qu'on soit aidé. Aujourd'hui, on n'est pas aidé. Hein.
Merci beaucoup, voilà. Fabien, en tout cas pour ce coup de gueule, pour ce coup de fil. Voilà, Fabien qui est gérant d'une société dans le bâtiment. Alors, il y a le bâtiment qui est en difficulté, puis il y a d'autres métiers qu'on ne soupçonne pas. Le métier d'apiculteur, tiens, on a Gilles qui nous appelle de Biote, dans les Alpes-Maritimes, et qui est apiculteur. Bonjour Gilles.
Biote,
avec un TE.
Et apiculteur, vous êtes en difficulté vous aussi, Gilles ?
Alors, nous sommes en difficulté un petit peu, je rejoins ce qui a été dit jusqu'à présent. Effectivement, nous avons été... Nous vivons dans un pays qui est quand même merveilleux, qui est la France, où on nous a aidés. On nous a aidés et on se retrouve aujourd'hui face à des problématiques qui ont été, grosso modo, masquées pendant le Covid. Puisque notre entreprise, et la mienne en particulier, nous avons perçu un certain nombre d'aides avec du chômage partiel. Mmh. Et nous avons été confrontés post-Covid à la dure réalité du monde de la concurrence. Et là où je modulerai par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'on signale souvent qu'il faut nous aider. effectivement, le pouvoir politique devrait ou pourrait ou aurait dû. On peut en discourir pendant très longtemps. Moi, ma problématique est une problématique de confrontation, de concurrence déloyale. Oui. Ou de concurrence
Europe de l'Est, notamment.
Voilà, Europe tout à fait. Quand on me demande de vendre un kilo de miel à 4 ou 5 euros alors que mon prix de revient va être à 6 ou à 7 euros, ce n'est matériellement pas possible.
Bien sûr. Non, vous avez raison.
Ce n'est pas possible.
Et ce n'est pas du vrai miel.
Et le sien, si.
Le sien, oui, mais l'importé, non.
Le politique ne peut pas œuvrer constamment et mettre un gendarme derrière tout le monde. C'est, à mon avis, tout un chacun, et moi le beau premier, avec ma carte de crédit, ce petit bout de plastique qui va me faire décider soit d'acheter français, un petit peu plus cher, c'est vrai. Mais tôt ou tard, si je n'achète pas français, à ce moment-là, je vais mettre en péril ma propre activité. Parce que la réinjection circulaire dans l'économie ne se fait pas.
Bien sûr.
Mais pardon, mais un gendarme derrière qui vous voudriez ? Derrière le consommateur ?
Mais non, que tu puisses plus avoir cette concurrence déloyale de l'étranger.
Voilà. Mais monsieur, il y a des pays où les miels, qui sont d'abord des faux miels, sont taxés, il n'y a aucun problème. Le libéralisme est préservé, il y a juste une taxe qui corrige la concurrence déloyale qui en plus est frauduleuse. Et vous serez protégé. Le vrai miel, c'est le prix que vous le vendez, c'est le prix normal. Oui. Alors ensuite, il y a du miel de merde qu'on importe et que la grande distribution importe en quantité au consommateur que c'est du miel. Il y a marqué miel dessus.
La grande distribution met en vente, mais qui est-ce qui achète ? C'est vous et moi. Donc à un moment donné, il faut que tout un chacun reprenne sa responsabilité.
Mais c'est signalé comment, monsieur ?
Le miel en France, monsieur, je suis profondément navré, le miel, quand il y a marqué miel, la définition légale est que c'est une transformation qui est due par une abeille.
Qui le vérifie ?
Essentiellement des miels européens qui sont des miels, c'est les miels chinois qui sont faux, les miels ukrainiens ou les miels roumains, ce sont des vrais miels, mais ils sont produits moins chers. Et donc c'est un problème.
Après voilà, et Gilles il est aussi en difficulté parce que les consommateurs, mais est-ce qu'ils peuvent faire autrement ?
Non.
Voilà, c'est bien le problème. Mais surtout, voilà, et ben quand t'as un miel à 8 euros et un miel à 1 euro, ben, si t'as pas d'argent...
Le miel à 1 euro n'a rien à faire là, il n'a rien à faire en Europe.
Je suis d'accord, mais en fait c'est une responsabilité qui est multifactorielle en fait. Merci beaucoup Gilles, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis on a beaucoup de messages, beaucoup de petits patrons justement qui nous écrivent sur l'appli RMC Rémi.
Clément notamment qui nous écrit, moi je dirige une petite entreprise, c'est vrai que c'est dur en ce moment, je vois de plus en plus autour de moi de collègues qui tirent la langue. Tout est là, tout est combiné pour que ça n'aille plus. Il faut rembourser les aides de l'État, on en a eu le droit et je m'en félicite au moment de la crise Covid, mais aujourd'hui, il faut rembourser ces aides au moment même où les prix de l'énergie explosent, au moment même où les gens sont toujours confrontés à l'inflation et où ils consomment moins, ce n'est pas tenable.
Notre invité sur ce débat, c'est Pascal Delima, qui est économiste. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on a entendu des témoignages de petits patrons qui ont un peu le couteau sous la gorge. Est-ce qu'on a raison d'être aussi alarmiste ? Est-ce que les jours, les mois qui nous attendent vont être encore plus sombres ?
Bah, comme d'habitude, moi, je vois bien sûr des raisons pour s'inquiéter. J'en vois trois principalement, mais il y a aussi des raisons d'espérer, heureusement, sinon il n'y a plus qu'à se suicider. Effectivement, bon, quand on regarde statistiquement, indiscutablement, en tout cas sur les défaillances d'entreprises, on s'approche quand même du niveau élevé déjà de 93 avec les crises bancaires, mais aussi plus récemment des niveaux de la décennie 2010-2019 où on avait effectivement une croissance morose. Et donc, historiquement, on voit bien que les niveaux de défaillance d'entreprise avoisinent peu à peu le niveau pré-Covid. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la France accentue un peu cette tendance par rapport à l'Europe. J'ai regardé un petit peu sur le reste de l'Europe. On a aussi une hausse des défaillances d'entreprise un petit peu partout, mais malheureusement, la France accentue davantage ces défaillances d'entreprise. Donc, c'est plus fort en France, en variation.
C'est embêtant quand même.
À la Belgique, à l'Allemagne. Donc, et les Pays-Bas, l'Italie s'en sortent plutôt bien. Donc c'est un petit peu, encore une fois, c'est un peu comme le défi.
C'est parce qu'on avait plus d'amortisseurs que la reprise est moins forte.
Oui, tout à fait. La reprise est moins forte. L'Italie a un marché immobilier qui est meilleur. La croissance est plus élevée en Italie. Aux Pays-Bas, il y a moins de retard de paiement. On a une petite tendance qui se renforce en France. Et puis il y a un dernier point que je voulais souligner pour les aspects négatifs, c'est que on a des grandes entreprises qui commencent aussi de plus en plus à faire faillite. Donc voilà, ça reste majoritairement, bien sûr, des micro-entreprises, quand même, des petites entreprises, 65%, mais on a une hausse des grandes entreprises.
C'est aussi, ça.
En 2023, des faillites de grandes entreprises.
Oui, vestimentaires, Duralex.
Voilà pour les trois points négatifs. Ouais.
Et quelles sont les raisons, on va dire, d'espérer, Pascal Delima, comment est-ce qu'on peut faire?
Mais oui, moi j'aime bien, alors il y a les raisons d'espérer, les secteurs concernés, les causes, etc., vous en avez parlé, mais les raisons d'espérer, c'est que, d'après les dernières données que j'ai pu regarder un petit peu, Asterès, Banque de France, INSEE, c'est que les très jeunes entreprises résistent un petit peu mieux quand même.
Ah, très bien.
La jeunesse, c'est important aussi pour l'avenir. Et certaines activités repassent un peu dans le vert. Voilà, il faudrait voir au détail.
Je ne vous sens pas non plus hyper optimiste, Pascal Delima, quoi.
Non, mais il y a certaines entreprises, il y a les créations d'entreprises, n'oubliez pas, il y a 1 million encore de créations d'entreprises en France.
On parle des destructions,
mais il faut parler de la création d'entreprises qui reste aussi élevée. Et on voit clairement, parce qu'on en parle peu, un processus de transformation de l'économie. Nous sommes dans une... Enfin, les créations d'entreprises partout sur le Made in France, sur l'industrie du futur, sur la mobilité du futur,
secteur
sur
protégé.
Tous les métiers du futur, me fait penser qu'on est dans un processus de destruction créatrice. Je suis persuadé que nous vivons une transformation et que il y a une... C'est du Schumpeter.
Il
va falloir s'adapter.
Un cycle.
Oui.
Il va falloir s'adapter. Mais merci beaucoup, Pascal Delima, voilà, pour cette note. Allez, un petit peu positive.
Oui, une lueur d'espoir.
Ouais, une petite lueur d'espoir sur nos entreprises. Effectivement, même avec l'IA, il va y avoir des nouveaux métiers créés. Mais à mon avis, il va y en avoir quelques-uns qui vont être détruits. Aussi, merci Pascal Delima. On va terminer avec Maxime, qui nous appelle de Toulouse et qui est gérant d'une société de nettoyage industriel. Et je crois que c'est une société qui est toute jeune, Maxime.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Ouais, c'est une société qui a 2 ans et demi. Donc je rebondis sur les propos de l'économiste précédent sur l'avenir des nouvelles sociétés. Mais globalement, moi j'ai monté ma structure il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, je suis en train de me poser la question de savoir si je vais pas la plier pour 3 raisons. Bah ouais, pour 3 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les clients ont de plus en plus de mal à payer les factures. Donc on fait ce qui vient d'être dit par l'économiste. C'est-à-dire que moi j'ai des clients nationaux, grands comptes, qui ont sur un plus de 90 à 120 jours de paiement de facture. Donc moi je suis pas banquier sur une petite structure. Donc ça pose question quand même sur l'économie de notre pays. Deuxièmement, on a quand même l'État qui nous aide pas beaucoup avec toutes les charges sociales qu'on paye sur nos salariés et qui de surcroît en plus se plante quand ils nous prélèvent la TVA, ils nous prélèvent le même jour 3 ou 4 fois le montant de la TVA. Donc ça arrange pas les trésoreries des boîtes. Donc globalement, ouais, c'est super de créer de l'emploi, de créer des structures, de se démener pour créer de la richesse dans notre pays. Mais en fin de compte, on a un État qui n'est pas facilitateur et aujourd'hui, on a un système économique qui fait qu'on est quand même en difficulté de se faire payer nos factures par nos clients. Donc c'est hyper complexe de tenir la tête hors de l'eau et de maintenir le cadre. Donc ouais, au bout de 2 ans et demi, je suis en train de me poser la question de l'avenir. Donc,
mais vous feriez quoi, Maxime, si vous fermiez votre entreprise?
Eh ben, on fera autre chose. On retournera dans le salariat, à condition de trouver du boulot. C'est pas trop la difficulté. Mais quand on est entrepreneur dans l'âme et qu'on a envie de créer des trucs, et que la première année où j'ai créé ma structure, j'ai eu du bénéfice, je me suis dit cool, c'est la première année, je vais être exonéré d'IS. Bah, mon cul, excusez-moi l'expression, je me suis pris 3 000 ou 4 000 balles d'impôts sur la société direct la première année d'activité. C'est pas facilitateur. L'État nous accompagne pas. L'État, il nous détaxe patronales, des charges sociales, derrière la TVA, et en plus derrière, il faut en plus qu'on paye de l'IS la première année d'activité quand on arrive à sortir un peu de chiffre d'affaires.
Ouais, IS, c'est impôt société, ouais.
Ouais, mais c'est la folie, sans déconner. Donc, aujourd'hui, ouais, moi, je suis plutôt positif en l'avenir, mais on se pose quand même des questions de savoir. L'entrepreneuriat, c'est quand même hyper compliqué, quoi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.
Eh ben, merci, Maxime, de nous avoir fait part de vos difficultés, alors que vous êtes une toute jeune entreprise et que vous pensiez déjà dégager des bénéfices au tout début, mais vous êtes trop imposé. C'est ce que vous nous dites aussi. Maxime, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, est-ce qu'on est inquiet pour la santé de nos entreprises, Rémi?
Oui, ben, la plupart le sont, comme Michel qui nous dit, bien entendu, qu'il faut s'inquiéter de nos entreprises, trop de concurrence, marché saturé, même redevenir salarié, car ma micro-entreprise ne me suffit pas à me verser un salaire.
Et oui.
Est compliqué pour moi,
bien sûr.
Le sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi.
Faut-il s'inquiéter pour nos entreprises? C'est le oui qui l'emporte très, très majoritairement. C'est oui pour 87% de ceux qui sont pour
une bonne nouvelle.
Sociaux, ouais.
Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC. Il y aura une question pour Benjamin Hamard. Les cheminots sont-ils des privilégiés? On va voir les conditions de retraite.
Oui, c'est une question qu'on
va
jamais
voir
posée.
Les conditions de retraite des cheminots. Ah, bah, écoutez, ils ont de la chance, oui.
Dans le
deux catégories.
Ah, là, on voit. Et puis, Thierry Moreau se réveille. Ça, c'est
shooté.
C'est marrant, ça.
Et puis,
il se réveille,
d'un coup, là. Et puis, tiens, et puis, on va aussi se demander si on est en train de devenir une société d'analphabètes. Il y a quand même une étude de l'INSEE qui révèle qu'il y a un adulte sur 10 qui a des difficultés pour écrire, lire et calculer. À tout de suite sur AMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, on est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec aujourd'hui Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Hamard et Perico Légas. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Ça chie des bulles.
Et on démarre avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Les cheminots de la SNCF sont-ils des privilégiés face aux menaces de grève des syndicats durant les ponts du mois de mai? La direction a acheté la paix sociale en offrant la possibilité à certains salariés, comme les conducteurs et les aiguilleurs, de partir à la retraite 30 mois avant la date légale, donc 15 mois payés à 100%. Mais pas de quoi parler de privilèges pour le cheminot DGG Bruno Poncet.
Tous ceux qui voudraient à un moment donné, qui se diraient, ouais, mais ils se barrent plus tôt. Bah, tu sais, moi, quand je suis rentré à SNCF, ils avaient ouvert les portes en grand, ils n'avaient pas embauché depuis 15 piges. Ils ouvrent les portes en grand, et moi, tous mes potes, et on s'est tous dit, on s'est tous regardés, bah, on essaye. Moi, j'ai plein de potes qui disent, non, je ne veux pas aller là-dedans. Ça ne m'intéresse pas de travailler le samedi, le dimanche, de gagner. Parce qu'en plus, on gagnait moins. Moi, je travaillais mieux avant, j'ai travaillé avant dans d'autres boulots, en usine ou dans le transport routier. Je gagnais mieux qu'à SNCF. On peut dire ce qu'on veut. Mais il n'y a pas un cheminot qui part à 50 piges, il n'y a pas un cheminot qui part à 55 ans. Aujourd'hui, ça s'est fini depuis longtemps. Les conducteurs de train, ça commence à 57-58, et les mecs sédentaires comme moi, moi c'est 64,5. Et puis à un moment donné, on peut penser ce qu'on veut, mais là aujourd'hui, cet accord-là est signé par des patrons. C'est qu'à un moment donné, ça arrange aussi les patrons.
Benjamin Hamard, les cheminots de la SNCF sont-ils des privilégiés? C'est vrai que de pouvoir partir finalement un an et demi plus tôt en retraite en étant payé à 100%, c'est pas donné à tout le monde.
Alors si à chaque fois que j'avais, on m'avait posé cette question, les cheminots sont-ils des privilégiés, on m'avait donné 10 centimes, je vous jure. J'aurais le niveau de, à peu près le niveau de vie de Carlos Tavares. Donc ce qui est moi ben, ce qui me sidère,
impôts,
c'est
hein.
que lorsque on a posé le problème de Carlos Tavares et de sa rémunération, il y avait des tas d'éditorialistes qui se griffaient les joues en disant mais enfin ça va pas, il le mérite, etc. Et là les cheminots qui ont effectivement obtenu une mesure qui permet de limiter la casse de la réforme des retraites, et là c'est parti, c'est la lali. Alors moi je vais vous dire,
c'est un métier pénible, vous poussez pas des wagonnets au fond de la mine.
La réforme de l'année dernière qui a été scélérate, qui a frappé tout le monde, nous on l'a combattu.
Donc tout le monde pareil.
Et ben non, mais alors justement moi ce que je constate, c'est que à la SNCF, les cheminots qui sont toujours très syndiqués, très organisés, sont capables de créer un rapport de force pour limiter la casse. Et
bien
moi, je suis très content pour eux. Et ce que je dis, moi qui ne suis pas cheminot, c'est que l'ensemble du salariat...
C'est pas très cool
salariat...
pour le reste de la société, quand même.
Oui, je sais.
Bah oui.
Non, mais c'est marrant, encore une fois, je le redis. Il y a des sujets sur tous les plateaux de télé, y compris celui-là, où on a des gens qui sont de vrais privilégiés, qui s'en foutent jusqu'à la rate. Et on a toujours des gens qui sont là, capables de mesurer le propos, de contextualiser. Et pour certains, c'est effectivement la curée. Et ben moi je vous dis que les salariés français entendent bien que lorsqu'on est organisé, syndiqué et puissant, on est capable.
On va l'attendre
longtemps. On est capable.
Va le dire aux indépendants qui nous ont appelés il y a 5 minutes.
Le ruissellement, c'est ceux qui organisent la précarité et que tu défends et dont tu défends en permanence la politique et les propositions. Là, en l'occurrence, on a des gens, des salariés qui sont mobilisés pour effectivement au maximum défendre leurs conditions de travail. Je les félicite et je dis aux salariés du public et du privé, défendez votre bout de gras avec toute l'énergie des cheminots. Et c'est très bien qu'eux arrivent à limiter la casse de cette réforme scélérate.
Mais Benjamin, mais moi je dis bravo, bravo les cheminots, bravo d'avoir réussi effectivement cette super négociation, bravo aux syndicats.
Ça sert à ça la grève.
Sauf que
l'accepter.
Mais Benjamin, mais donc je suis d'accord avec tout ce que tu dis, bravo. Mais à la question, les cheminots sont-ils des privilégiés? Eh bien, tu dois répondre oui.
Non, c'est pas ça. Alors, moi, je reformule. Les cheminots sont des salariés qui défendent leurs conditions de travail et qui y arrivent.
Et qui donc tout sont des privilégiés de facto.
Tout est, ça, c'est ton mot. C'est privilégié, c'est ton mot.
Et moi, je veux bien. Son bout de gras,
moi, je vais vous dire un truc. Il n'y a pas de problème. Si on parle des privilégiés, je veux bien que tout le monde foute sa fiche de paye ici.
Mais quel rapport?
Et on va voir qui est un privilégié.
C'est tellement démago ce que tu dis.
Non, non, c'est pas démago. Non, c'est pas démago. Moi, je supporte plus qu'on traite de privilégiés les gens qui n'en sont pas. Les privilégiés, on sait qui c'est. C'est ceux qui, 1% de la population.
Tu peux partir à la retraite 3 ans avant, c'est un privilège.
Accapare des richesses de manière honteuse. D'accord. Les cheminots, ce sont des salariés qui défendent leurs conditions de travail et qui parviennent. Et c'est très bien.
Et qui partiront en retraite 3 ans avant tout le monde.
Très bien.
C'est Thierry un Moreau. Doigt d'honneur au gouvernement, parce que le gouvernement a mis une loi pour repousser l'âge de la retraite. On est d'accord ou pas d'accord, elle a été votée.
Mais toi, t'es d'accord,
elle est rentrée, dans la loi, elle est inscrite dans le marbre. Et maintenant, pour contourner ça, et pour acheter la paix sociale, le président de la SNCF donne cet avantage honteux aux cheminots
qui veulent partir
15 mois à 100% de salaire, 30 mois avant l'âge de la retraite,
que
personne d'autre ne peut avoir. Donc c'est une manière de contourner la loi, de faire un pied de nez au gouvernement, et c'est absolument honteux.
C'est une négociation.
Dans le privé, tu sais très bien que les autres ne pourront jamais obtenir ça. Jamais,
c'est ton discours
jamais,
fataliste,
jamais,
celui-ci.
Parce que c'est un bastion syndical à SNCF, tu le sais. Et même les syndicats.
Bah mais bravo aux syndicats! Bravo aux syndicats!
Très bien, les bastions syndicaux.
Je peux terminer. Même les syndicats étaient surpris de la proposition tellement elle était énorme.
Et bah ouais.
Tellement elle était
la syndicalisation,
énorme.
Ça fait.
Ils ont acheté la paix sociale, ils ont contourné la loi au détriment des salariés du privé.
Quel contournement de loi? Je te rappelle qu'ils n'ont plus le statut de fonctionnaire.
Très bien.
Alors arrête de raconter des bêtises.
Sauf qu'ils partent avec les 6 mois de traitement.
Oui,
c'est indexé sur les 6 derniers mois. Moi, faut que je passe 25 ans pour avoir une retraite.
Pardon.
Eh ben non, voilà. il fallait se syndiquer, se mobiliser.
On peut mettre nos fiches de paye sur la table.
Toi, tu ne l'as pas fait. T'as toujours défendu ton petit beefsteak.
Mais pas
eux,
du
ils
tout.
Sont dans une
tu
logique collective.
Ma fiche de paye, je te la donnerai, ma fiche
ah
de
ben
paye.
Bien. Et
tu verras.
On verra qui est privilégié ou pas.
Eh ben, on verra.
Et le meupé chaud, là.
De traiter les gens privilégiés comme
stop.
Ça. Il entend d'eux.
Stop.
Il ne supporte plus.
Est-ce que je peux entendre l'avis, excusez-moi, éclairé certainement de Perico Légas sur la question? Merci, Perico.
Il n'y a pas d'inégalité concernant des salariés ou des fonctionnaires, quand on a l'aberration des inégalités de profit, oui. De cette fausse fiscalité, de ces gens qui volent, qui trichent, qui détournent l'argent de l'État, qui profitent d'une optimisation fiscale et qui, eux, provoquent tout le malheur de la société. Donc, effectivement, il y a peut-être un déséquilibre par rapport à certaines catégories qui ont un peu plus. On est dans la revendication sociale, on est dans le rapport de force. Il y a des syndicats, on leur reproche toujours d'être très faibles et d'être pas présents.
Mais pas du tout, on vient de dire bravo.
Donc, je me réjouis. Et si on veut balayer sur les inégalités qui viennent de la France dans le mur, on a largement de quoi faire toutes les missions et c'est l'avenir jusqu'à la fin des temps. Parce que la France est le pays où il y a le plus grand d'inégalités. Entre les gens qui gagnent de l'argent indûment, qui se font du fric sur le dos des autres et qui ont des avantages fiscaux à cause du gouvernement de droite qui permet à des gens qui ne travaillent pas d'engranger des fortunes par rapport aux gens qui triment. Alors chez les gens qui triment, il y a peut-être effectivement des déséquilibres, mais parler d'inégalité pour les cheminots français, quelle que soit la polémique que puisse susciter les avantages catégoriels des uns et des autres, quand on a ce que l'on voit aujourd'hui en France, dans le haut patronat et dans le grand capital financier, c'est une insulte à la République.
Dans une entreprise en plus qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, bénéficiaire, parce qu'on dit que la SNCF est bénéficiaire, forcément elle a été coupée en
morceaux. C'est l'entreprise la plus rentable.
Coupé en morceaux.
Oui, dans l'Union européenne, sur les gens
en voyageurs. La France voyageur est bénéficiaire alors que l'État renfloue la dette de la SNCF tous les ans à coups de dizaines de milliards et renfloue aussi l'entretien des voies
ferroviaires la plus rentable
voyageurs,
de l'Union européenne.
Voyageurs, la filiale voyageur.
Et alors, c'est la principale des filières. Qu'est-ce que tu racontes?
Juste, Benjamin Hamard, on espère, parce qu'on a eu un syndicaliste sur le plateau il n'y a pas très longtemps et qui brandissait une nouvelle menace de grève. Alors, quand même, là, il y a quand même un moment où j'espère. Non, mais j'espère quand même, Benjamin, pardon. Mais là, effectivement, l'avancée sociale, elle est très forte. On peut dire aussi, voilà, bravo, en tout cas, à la direction qui, peut-être pour une fois, et c'est ce que tu réclamais souvent, s'est mis à la table des négociations et à écouter les syndicats. Donc là-dessus, voilà. Mais en revanche, ce qui serait quand même assez aberrant et ce qui serait certainement mal vu par le reste de la population, c'est si on avait encore de nouvelles menaces de grève là dans les 3 semaines pour je ne sais quoi.
Alors,
parce que là, les avancées elles sont quand même énormes.
Alors, d'abord, moi, je ne suis pas cheminot, je suis pas syndicaliste cheminot. En tout cas, je dis une chose simple. Depuis que ce gouvernement est là, régression sociale sur régression sociale s'accumule. Là, il y a une négociation qui a remporté
qui a abouti.
Et j'en suis ravi.
Mais c'est très bien.
Des motifs
des motifs pour faire grève dans ce pays, il y en a plein. La oui. fonction publique.
Mais arrête aux indépendants qu'on a
mais arrête
tout à
un peu de diviser grève. Les gens, c'est insupportable d'entendre ce genre de cirque, ce discours dégueulasse.
Je ne divise pas
me rend
les
dingue.
Gens qu'on a eu tout à l'heure au téléphone,
je vais, t'envoyer des catégories C qui gagnent le SMIC et tu vas leur raconter tes salades. Donc maintenant, il y a des gens dans le public comme dans le privé qui sont à découvert le 5 du mois. Ils ont des tas de raisons de se mettre en grève. Quand ils se mettront en grève, j'applaudirai des mains et des pieds et je ferai taire tous ceux qui racontent n'importe quoi sur les privilégiés qui gagnent même pas 1500 balles par mois.
Alors, nous allons changer de débat, ce sera bien. Apolline Matin, ce matin sur RMC, notre patrimoine populaire est-il en danger ? À Paris, un célèbre club de boulistes installé depuis 50 ans sur la butte Montmartre vient d'être prié par la mairie de quitter les lieux. Cette dernière a en effet confié cet espace aux luxueux hôtels voisins afin qu'ils le transforment en un parc modèle de biodiversité. Mais les boulistes n'ont pas dit leur dernier mot et ont décidé de résister. Ils témoignaient au micro de Romain Poiseau sur RMC.
Nathalie, jeune retraitée, est prête à dormir ici toutes les nuits s'il le faut pour défendre son jardin d'Éden.
Bah ici, c'est ma famille. Je ne vais pas aller marcher seule dans les rues, je ne vais pas aller me mettre dans un café. Je vais venir ici.
Jean-Charles, 89 ans, il a vu la création du club de pétanque en 1971.
Pour le restant de mes jours, j'espérais pouvoir continuer à jouer au boulot, rencontrer les copains. Ça me fait mal au cœur.
On se trompe de combat. Pour Éric Elmosnino, comédien et bouliste.
Il n'y a pas besoin de rajouter des chèvres et deux poules. Il existe déjà cet endroit de partage et de convivialité. J'ai l'impression que maintenant, Paris, c'est plus une ville où tu peux vivre. C'est une ville, c'est un musée, quoi.
C'est tellement sympa de jouer au boule à Paris, de voir les boulistes, etc. Mais moi, ça me déprime, Péricot.
C'est une énorme contradiction dans ce que j'appelle l'hidalguisme, si tant est qu'il y en ait un.
Oui, c'est un mouvement.
L'hidalguisme prolétarien environnementaliste, elle est en contradiction totale avec tout ce qu'elle prescrit, tout ce qu'elle prescrit pour sa bonne ville. On a un instant de culture, de civilisation, de mémoire, en plus un espace vert,
partage.
Du lien social avec des gens qui sont là, des personnes âgées. Veut dire la boule, c'est comme la baguette de pain et le béret, c'est le symbole de la France et c'est Paris. Est-ce qu'on peut laisser quelques oasis des civilisations dans le cauchemar, l'égout cauchemardesque dont elle a fait la capitale? Tout ça pour faire des trucs du fric à des multinationales qui vont évidemment s'en foutre fin la fouille, conditions sociales de l'emploi qui va être dégénérée et puis alors les touristes que ça va attirer. Non, là vraiment, je comprends pas. Alors je pense qu'elle est peut-être pas au courant de ce dossier précis, mais je pense que puisque nous le révélons, la municipalité de Paris devrait s'emparer tout de suite et nous allons immédiatement lancé avec Benjamin une pétition. Peut-être que mon rôle libéral voudra nous rejoindre pour sauver cet espace de convivialité sociale et de culture et de civilisation qu'est ce petit terrain de boule Paris.
Mais oui, c'est un petit havre de paix, mais voilà, sûr, à Montmartre.
Là,
mais bien sûr, c'est un club où on se retrouve pour jouer au boule depuis plus de 50 ans. Effectivement, Paris est en train de devenir une ville musée, Thierry Moreau.
C'est le cas de dire on a les boules.
Parfait, j'ai pas un mot à rajouter à ce qu'a dit Péricot. Pour le coup, le c'était mieux avant s'applique. Il faut effectivement conserver ce genre de tradition contre le mercantilisme effectivement ambiant et la bétonisation. Parce que quand même,
il
faut se replacer aussi dans un contexte de bétonisation globale de la ville de Paris. On nous avait vendu une législative, une mandature d'Anne Hidalgo avec beaucoup d'espace vert. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bétonisation et ça en est un des exemples.
Il y a pire que le néolibéral, c'est le social-démocrate. Je l'ai toujours dit, mais ça se vérifie.
On fait quoi, Benjamin Hamard ? On fait une pétition ? On manifeste
Il y a une mobilisation citoyenne qui peut tout à fait effectivement se mettre en place. D'ailleurs, je dirais les choses autrement. Il y a aussi toxique que le néolibéralisme, il y a son frère siamois, le social-libéralisme, qui est capable de prendre de telles mesures qui sont insupportables. Mais d'ailleurs,
nom de la biodiversité. C'est toujours au nom de la biodiversité.
Ils vont
mettre un petit espace de gazon là.
Non, mais au nom
trois
de la
planches et deux marguerites et c'est réglé.
Il y a aussi effectivement le plaisir du vivre ensemble, les lieux de sociabilité. Et ça ne tient pas la route, ce genre d'argument. Si c'est ça l'argument, il ne va pas tenir la route, je pense.
Le goulag vert.
Et l'hôtel de luxe est ravi de pouvoir accueillir plus de clients dans son restaurant.
Bah, évidemment.
Voilà, évidemment. Comme quoi, la biodiversité, il y a des conséquences insoupçonnées. Ça va venir des gens au restaurant.
Il y a des tas de gens qui sont passés maîtres dans l'art de dévoyer des causes nobles. Et c'est un exemple.
Ça se paiera dans les urnes, comme a dit Tavares.
Allez, dans un instant, il y aura RMC s'engage avec vous. Et on va tenter d'aider un couple qui vit dans un logement social totalement insalubre. On va essayer de les sortir de cette situation. Et puis à 14h, on parlera de cette taxe de 5 euros qui est en vigueur désormais pour les visiteurs de Venise. Est-ce qu'il faut faire payer l'entrée des villes touristiques pour limiter leur fréquentation ? On en débat avec vous dans un instant au 32-16.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis. 6h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de vous aider tout de suite avec Amélie Rosic. RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Amélie, il a fait très très froid la nuit dernière avec des conséquences très concrète pour certains.
Oui, c'est parti, je vous emmène à Montreuil, c'est pas très loin d'ici, en proche banlieue parisienne. Chez Thomas et Mélissa, ils ont la trentaine. En début d'année, bonne nouvelle, ils ont enfin un logement social, donc ils emménagent dans un logement social tout neuf, un appartement avec deux chambres pour agrandir la famille, nous explique Thomas. Sauf que, dès l'état des lieux, le couple constate qu'il n'est pas en très bon état, visiblement très très humide.
C'était enfermé, on va dire, il n'y avait pas d'ouverture, on va dire. Donc on avait des difficultés à ouvrir les portes en bois aussi, ils avaient gonflé avec l'humidité, comme des auréoles hein, au niveau des murs, des traces jaunes, noires même au niveau de la cuisine. Dans la salle de bain, on a carrément un mur qui s'effrite.
Et ce n'est pas tout, comme si ça ne suffisait pas. La chaudière ne fonctionne pas, et ça fait plus de 2 mois depuis qu'ils ont emménagé en fait. Donc pour se doucher et se chauffer, c'est le système D.
On chauffait un petit peu d'eau chaude et on se lavait aux gants, quoi, un petit peu comme à l'époque. Et on a dû composer avec ce qu'on avait, quoi, avec les couettes, avec les bouillottes. Même avec ça, on avait froid.
Alors, ils ont quand même accepté ce logement social, de prendre l'appartement. Parce que vous savez, avec les logements sociaux, une fois que vous avez visité, si vous refusez, vous pouvez être blacklisté, c'est-à-dire de ne pas pouvoir postuler pendant 1 an, par exemple. Ça dépend des bailleurs. Et évidemment, depuis, Thomas et Mélissa continuent de payer le loyer. 1180 euros par mois quand même.
Et ce qui est fou, c'est qu'on le voit sur les images, il a l'air tout neuf cet appartement.
Ouais, bien sûr.
Il est tout beau, tout clean, tout blanc. Évidemment, on a bien compris, hein, le bailleur social ne fait rien. Mais comment ça s'explique?
Alors, il fait rien. Il tente des choses, mais pas suffisamment quand même. Le bailleur social, c'est la société Inly, qui est leader en Île-de-France dans la gestion des logements sociaux intermédiaires. Ce sont ces logements sociaux qui sont dédiés aux jeunes actifs ou aux classes moyennes. Thomas les a bien contactés plusieurs fois. Un technicien est passé, un plombier aussi, et ça ne fonctionne toujours pas.
Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Je ne comprends pas.
Eh bien, parce que visiblement, il y a des malfaçons dans cet appartement.
Faudrait détruire l'immeuble, quoi.
Voilà, le promoteur a mal fait son travail. Mais bon, on est quand même intervenu dans le dossier. Avec Margot Boult, on leur a rappelé quand même au bailleur social ses obligations en termes d'entretien et de décence. Mm-hmm. Et ça comprend évidemment un chauffage qui chauffe.
C'est mieux.
Et voilà. Et pour que vous compreniez bien, même s'il y a des malfaçons, par exemple, faites par le promoteur, c'est le bailleur qui est responsable in fine. Donc c'est à lui, en fait, de lancer les démarches. Il nous a répondu qu'il n'avait pas eu de chance parce que, tenez-vous bien, l'entreprise à laquelle ils ont fait appel pour les travaux de réparation a fait faillite.
Oui, mais quand on voit leurs travaux,
on se dit que visiblement, il y avait eu un problème. Bon, sauf que la faillite de l'entreprise de travaux, Thomas et Mélissa s'en fichent un peu, parce que ça ne change rien pour eux. Eh bien, aujourd'hui, on n'a que des bonnes nouvelles, Estelle. Et ouais, voilà, c'est comme ça, RMC s'engage avec vous, que des bonnes nouvelles. Grâce à nous, une chaudière électrique provisoire doit être installée avant la fin de la semaine.
Chouette.
Et ça, c'est avant la mise en place de la chaudière au gaz définitive.
Ils n'auront plus besoin de se doucher aux gants.
Voilà, c'est quand même mieux. Pour l'humidité, un séchoir doit être posé pour assainir les murs, les sécher en fait. Ensuite, refaire les peintures et stopper les infiltrations. Et pour couronner le tout, Inly s'engage à faire un geste commercial en guise de dédommagement. En revanche, ils nous ont dit que tout ça se serait fait avant la fin de la semaine.
Wow.
Donc on vérifiera tout ça avec la plus grande attention.
Oui.
Et on verra la semaine prochaine, on vous en dira un petit mot pour savoir s'ils ont réussi à maintenir leurs promesses et leurs délais.
Ils se sont peut-être un tout petit peu engagés sur la fin de la semaine.
Je ne sais pas.
Mais en tout cas, non mais on peut saluer.
Ah oui, non, voilà, sincèrement.
Franchement, ils sont en train de dédommager ce petit couple qu'on essaye d'aider. Ils essaient de faire quelque chose.
Absolument.
Voilà, ils n'ont pas répondu aux abonnés absents, donc ça c'est plutôt bien. Et moi, je suis sûre qu'ils vont faire... Ils vont faire de leur mieux et que ça va le faire.
Je le sens bien. Non, sincèrement, je le sens bien.
Eh bien, bravo à Amélie pour ce nouveau succès de l'équipe de RMC s'engage avec vous. Vous aussi, vous pouvez bien sûr nous envoyer un mail si vous voulez être aidé par Amélie et toutes ses équipes. RMC avec vous, @rmc.fr. On aide qui demain, Amélie?
On aide les clients, les consommateurs de la SFAM. Vous savez, ces assurances de téléphone portable, iPad, tout ça. En fait, vous devez payer 20 euros, puis finalement, vous vous retrouvez à payer 200 euros par mois. Et bah oui, et moi aussi.
Vous aussi?
Oui, moi aussi.
Parce que moi j'avais déjà honte de me faire arnaquer.
Ah non mais j'avais honte, évidemment que j'avais honte, mais je me suis fait arnaquer et j'ai récupéré mon argent il y a quelques années de ça. Et donc demain on vous annonce pas mal de choses.
Ah bah écoutez, génial, merci beaucoup Amélie Rosic. Dans un instant, on va parler de cette taxe de 5 euros pour les visiteurs de Venise. Est-ce qu'il faudrait faire payer l'entrée des villes touristiques pour limiter la fréquentation? C'est la question qu'on vous pose dans un instant. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.